Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Les dernières news, édition complète avec Walid Selman. Bonsoir Walid.
Bonsoir Hakim, mesdames, messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue français, Jean-Noël Barrot. Arrestation de 4 narcotrafiquants, récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et saisie d'1 600 000 comprimés de psychotropes dans la localité d'Arak, dans la wilaya de Tamanrasset, en 6e région militaire. 17e jour de l'escalade militaire au Golfe et au Moyen-Orient, le président américain anime une conférence de presse. L'Iran prêt à aller aussi loin que nécessaire dans la guerre, position de fermeté réitérée par le chef de la diplomatie iranienne sur le terrain des explosions entendues à Doha, au Qatar et aux Émirats arabes. Unis, l'entité sioniste annonce de nouvelles frappes sur Téhéran et poursuit ses agressions au Liban. Elle porte sur le domaine des applications agricoles deux conventions de coopération signées ce lundi entre le centre de recherche en technologie industrielle, l'entreprise de construction de matériel agricole et l'école nationale supérieure agronomique. Plus de 55 000 commerçants mobilisés à travers le territoire national pour assurer la permanence et garantir un approvisionnement régulier des citoyens lors des fêtes de l'Eid. Et puis d'importants moyens humains et matériels mobilisés par le ministère des Travaux publics pour assurer la continuité du trafic routier et de la circulation à travers les différentes wilayas touchées par les dernières perturbations météorologiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a reçu un appel téléphonique de son homologue français, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'occasion pour les deux ministres d'examiner l'état des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que les perspectives qui s'offrent à elles. Les deux chefs de diplomatie ont également procédé à un échange de vœux sur la situation dans l'espace sahélo-saharien, ainsi que sur les développements relatifs au processus de règlement de la question du Sahara occidental. Également abordé les graves développements que connaît la région du Moyen-Orient et leurs répercussions au plan régional et international. Dans ce contexte, une attention particulière a été accordée à la situation prévalant au Liban, qui constitue une source de préoccupation partagée pour les deux pays. Nous vous le disions en titre, arrestation de 4 narcotrafiquants, récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et saisie d'1 600 000 comprimés de psychotropes, une opération qualitative menée par des détachements combinés de l'armée nationale dans la localité d'Arak, à Tamanrasset, en 6e région militaire. Elle s'est inscrit dans la dynamique des efforts continus pour la sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande et le crime organisé, Samir Al-Loun.
Les détachements de l'armée nationale populaire poursuivent leurs opérations qualitatives sur plusieurs fronts afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la lutte contre la criminalité organisée, deux menaces qui mobilisent en permanence les forces de sécurité, notamment dans les zones frontalières et les régions sensibles. Erslen Chirraoui, expert en géopolitique.
Il est clair que les dernières opérations menées par l'armée algérienne et les services de sécurité au niveau frontalier qui se sont soldés par des prises spectaculaires en matière de narcotrafic et de lutte contre le narcotrafic dénotent tout simplement qu'il y a une continuité de l'action de protection des frontières et de l'action de lutte contre les fléaux malveillants et les organisations malveillantes. Cela dénote également que nous sommes en face aujourd'hui d'une armée qui est professionnelle, qui a les moyens humains et matériels pour pouvoir contrer tous ces fléaux-là qui minent notre pays, mais qui mine également la région.
À travers ces opérations menées régulièrement sur le terrain, l'armée nationale populaire confirme la mise en œuvre d'une stratégie permanente, méthodique et solidement construite pour faire face aux différentes menaces sécuritaires.
Tous ces trafics-là sont des corollaires du terrorisme qui est rampant dans la région sahélo-saharienne. L'armée algérienne et les services de sécurité ont une stratégie permanente. Elle est bien bâtie pour lutter contre les fléaux malveillants et par voie de conséquence, l'Algérie devient un rempart contre tous les fléaux malveillants.
À travers cette démarche, l'Algérie s'impose comme un véritable rempart face aux réseaux terroristes et criminels, tout en garantissant la sécurité de son territoire et de ses citoyens.
Un travail signé, Samir Al-Loun, 17e jour de l'escalade militaire dans le Golfe et le Moyen-Orient. Lors d'une conférence de presse animée par Donald Trump il y a quelques instants, le président américain a affirmé que les États-Unis font aujourd'hui ce qu'ils auraient dû faire depuis de nombreuses années. Trump reproche également à certains pays leur manque d'enthousiasme concernant le détroit d'Ormuz. Des pays européens ont fait savoir à Washington qu'ils n'envisageaient pas la participation de l'OTAN pour sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran prêt à aller aussi loin loin que nécessaire dans cette guerre, affirmé pour sa part Téhéran. Téhéran qui menace de viser des entreprises américaines au Moyen-Orient. Plus de détails sur la suite possible des événements avec Alexandre Aoun, expert en Proche-Orient. Il a été contacté par Lies Serrini.
Aujourd'hui, c'est à savoir si la volonté américaine est juste de taper fort pour reprendre les négociations, parce que les Israéliens, ils étaient totalement opposés à toute négociation. Qui disait négociation, disait potentiellement accord, disait potentiellement ouverture économique de l'Iran, et ce qui n'était clairement pas la volonté israélienne. Le fait d'avoir amassé cette puissance de feu au Moyen-Orient, une plus grande puissance de feu que lors de l'opération en Irak en 2003, c'était pour dissuader l'Iran, pour faire en sorte qu'elle accepte toutes ces concessions maximaliste imposée par Washington, mais également par Tel Aviv, à savoir zéro enrichissement en uranium, limiter la portée des missiles balistiques à peine 300 km, ce qui empêcherait l'Iran de se défendre en cas d'attaque israélienne, et également la fin du soutien à ses proxys appelés l'axe de la résistance.
D'ailleurs, l'Allemagne a appelé les États-Unis et l'entité sioniste à clarifier leurs objectifs dans cette guerre contre l'Iran. En tout cas, à Washington, le coût de la guerre, plus de 12 milliards de dollars, selon le directeur du Conseil économique de la Maison-Blanche, commence à peser lourdement, autant sur l'économie que sur le plan politique, alors que le président Trump prévoit d'annoncer d'ici la formation, d'ici une semaine, d'une coalition chargée d'escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, un pari risqué selon l'analyste politique Bruno Drewski. Il répond aux questions de la Béa Slimani.
Grand problème, surtout qu'il y a les élections dans 8 mois et que, évidemment, il faut qu'il présente avant les élections un bilan positif, alors que sa politique va en contradiction avec une grande partie de son électorat. La stratégie iranienne de guerre d'usure semble porter ses fruits, même si l'Iran subit des conséquences. Si l'Iran veut bloquer le détroit d'Ormuz, il le bloquera. Aucune force n'est en état de l'empêcher. Le deuxième point, évidemment, il est clair que les États-Unis, ce qu'ils veulent, c'est que le reste de l'OTAN participe à cet effort de guerre, mais a priori, les dirigeants européens ne sont pas prêts à se lancer dans cette aventure. Surtout qu'il y a aussi la guerre en Ukraine. C'est au cours de cette semaine que les choses vont se décider. Mais il est clair que, pour le moment, la position américaine est quand même très précaire.
Ministre des Affaires étrangères iranienne Woolizian, qui a mis en garde contre un débarquement terrestre sur l'île de Khalq, qui abrite des infrastructures clés pour l'exportation du pétrole iranien.
Si la décision est prise, c'est hasardeux parce que rien n'indique que les Américains n'auront pas de grosses pertes. Alors on parle de l'île de Khalq, on parle beaucoup moins de la possibilité d'une attaque à partir du Turkménistan où les Américains sont présents. Si on regarde la carte, une attaque au sol américaine semble quand même très hasardeuse. Et d'ailleurs l'avis d'officiers supérieurs de généraux du Pentagone.
C'était l'analyste politique Bruno Drewski qui répondait aux questions de la Béa Slimani. Escalade militaire et des marchés énergétiques impactés. L'or noir a pris sa tendance haussière aujourd'hui dans l'après-midi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai s'établissait à $103 le baril. Retour chez nous. Elle porte sur le domaine des applications agricoles. Deux conventions de coopération ont été signées ce lundi entre le Centre de recherche en technologie industrielle, l'entreprise de construction de matériel agricole et l'École nationale supérieure agronomique. Adopter des solutions prêtes à l'emploi, c'est l'appel lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le compte-rendu de Sarah Hafarsas.
La première convention porte sur le développement de machines agricoles adaptées aux terrains difficiles afin d'optimiser la production et de réduire les pertes. Hartani Tarak, directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie.
Nous allons modifier et adapter certaines machines agricoles au terrain algérien, de manière à éviter les pertes dans la récolte, par exemple, de manière à permettre à certaines machines de travailler dans des conditions de terrain accidentées, c'est-à-dire dans des conditions un peu spécifiques. Il y a de l'innovation, il y a de la contribution des étudiants, il y a des start-up en prévision et des brevets en cours de préparation.
Elle est suivie par un partenariat visant à améliorer des équipements existants et à la création de nouveaux produits innovants. Riyad Baji, directeur du Centre de recherche en technologie industrielle.
Et notre centre de recherche a signé une convention de collaboration avec cette entreprise. C'est une société qui fait la production de toutes sortes de matériel agricole. Avec notre technologie, avec notre savoir, on intervient soit pour apporter des solutions innovantes aux produits déjà existants, soit en proposant carrément des nouveaux produits qui vont être réalisés au niveau de cette entreprise.
Ces conventions ouvrent la voie à l'innovation, renforcent l'efficacité des équipements agricoles et soutiennent un secteur stratégique pour l'économie nationale.
Et parmi les solutions développées par le CRTI, le Centre de recherche en technologie industrielle, des prototypes d'épieuses agricoles, une station météo connectée dédiée au suivi des parcelles réservées à la culture du blé, un robot utilisable dans les exploitations agricoles et un pulvérisateur guidé pour l'irrigation des grandes surfaces agricoles. Je vous propose d'écouter Kamel Badari, le ministre de l'Enseignement supérieur.
J'invite les opérateurs et les investisseurs dans le domaine agricole à adopter ces solutions prêtes à l'emploi et qui sont une valeur ajoutée pour l'économie nationale et pour l'économie innovante. Ces 6 innovations auront un impact significatif sur l'économie nationale et la souveraineté alimentaire, industrielle et dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Propos recueillis par Sarah Hafersas. Le référentiel national des formations et des compétences a été officiellement lancé aujourd'hui à l'école d'hôtellerie, marquant une étape clé dans la modernisation de la formation professionnelle en Algérie. Chemseddine Bouzid.
Le référentiel national des formations et des compétences, RNFC, constitue en Algérie une avancée majeure dans la modernisation de la formation professionnelle. Lors de son lancement, l'objectif a été clair, aligner les formations sur les besoins réels de l'économie nationale. La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel nous parle de cet alignement.
Ce référentiel se veut comme une fiche technique nationale qui reprend les métiers des secteurs qui peuvent être un référent en termes de métiers, mais en termes de compétences nécessaires techniques, mais aussi dans leur catégorisation de compétences à forte potentiel, les métiers en tension. C'est aussi une cartographie de métiers qui nous permettra en tant que secteur d'avoir une gestion et une gouvernance plus efficiente qui permettra aussi d'orienter nos programmes selon les besoins avec une approche locale. Mais aussi une approche nationale.
Le nouveau système repose sur une approche par compétences, axée sur la pratique et qui s'appuie grandement sur des outils numériques, notamment des plateformes digitales.
Depuis février 2025, aucune inscription dans le secteur de la formation professionnelle ne se fait en papier, tout se fait sur des plateformes en interopérabilité avec les autres secteurs et services de renseignement nécessaires pour le dossier de l'apprenti.
En pratique, ce référentiel verra également l'inauguration de plusieurs centres d'excellence dans des secteurs parfois inédits.
18 ont été déjà inaugurés, le dernier en date, c'est celui des métiers des mines à Tindouf. D'autres, selon les thématiques, mais aussi selon les projets, gros projets structurants qui vont se constituer, notamment un centre d'excellence dans les métiers de cinématographie.
Une réforme à l'impact socio-économique significatif qui améliore l'employabilité des jeunes et qui soutient les secteurs stratégiques.
26e jour du mois sacré de Ramadan, cette nuit est souvent associée à la nuit du destin. Laylat al-Qadr, elle commémore la révélation du Saint-Coran au prophète Mohammed. Une nuit à la symbolique forte, nous dit Kamel Shekat.
Laylat al-Qadr, c'est le point culminant du mois de Ramadan. C'est une nuit qui équivaut le salaire de 83 ans et 4 mois d'assiduité au culte. Nous avons pris l'habitude dans nos pays, et surtout dans le bassin méditerranéen, à la célébrer lors de la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Ceci parce que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, l'a désigné à ses compagnons. Sauf que l'avis le plus prépondérant privilégie une assiduité au culte durant les dernières décades, c'est-à-dire les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et plus particulièrement les nuits impaires.
C'était Kamel Shekat, membre de l'association des ulamas algériens. Plus de 55 000 commerçants mobilisés à travers le territoire national pour assurer la permanence et garantir un approvisionnement régulier des citoyens en produits et services de large consommation durant les fêtes de l'Eid al-Fitr. Amin Nesmara, responsable de la communication au ministère du Commerce intérieur, il a été joint par Rimbo Kadoum.
Les services du ministère du Commerce intérieur ont élaboré un programme de permanence à l'occasion de Eid al-Fitr. À cet effet, 2865 agents de contrôle ont été mobilisés à travers l'ensemble du territoire national pour veiller à la mise en œuvre effective de ce programme. Par ailleurs, 55 743 commerçants ont été réquisitionnés, dont 6 617 boulangers, 30 538 commerçants activants dans l'alimentation générale et 18 042 opérateurs exerçant dans diverses activités, ainsi que 546 unités de production réparties entre 154 lettrés, 345 ménoteries et 47 unités de production d'eau minérale.
Et d'importants moyens humains et matériels mobilisés par le ministère des Travaux publics et des infrastructures de base pour assurer la continuité du trafic routier, de la circulation à travers les différentes wilayas touchées par les dernières perturbations météorologiques en application des instructions du ministère des Travaux publics. Abdelkader Djilawi, les équipes techniques et de maintenance ont entamé des opérations de déneigement pour ouvrir les routes et procéder au nettoyage des avaloirs et dans l'enlèvement des résultats des pluies à travers le réseau routier national et de wilayas, plusieurs wilayas concernés. Par ailleurs, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de fortes rafales de vent continueront d'affecter plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Pour le centre du pays, le BMS reste valable jusqu'à demain, 6h. Plusieurs wilayas concernées, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de fortes rafales de vent affecteront également demain mardi et mercredi la wilaya de Tindoufa. Palais, mosquées et musées millénaires frappés par les bombardements sionistes depuis fin février. Le patrimoine historique iranien subit de lourds dégâts. On sent le débat sur la protection des civilisations face à la guerre moderne. Younes Djouti.
Des édifices chargés de plusieurs millénaires d'histoire qui disparaissent, réduits en poussière par les bombardements. L'Iran, pays au patrimoine millénaire, est confronté à ce que les historiens qualifient déjà d'épistémicide. Après le génocide à Gaza, les frappes israéliennes et cette fois aussi américaines ont gravement endommagé plus de 50 sites historiques et musées iraniens. À Téhéran, le prestigieux palais de Golestan, qui aurait inspiré la galerie des glaces du château de Versailles, figure parmi les sites touchés. Le bazar historique de Marmare, également partie des 17 lieux visés dans la capitale. Dans le Kurdistan iranien, 12 palais et musées ont aussi subi des dégâts. À Ispahan, la place Naqsh al-Jahan Square et la mosquée Abbasi ont quasiment été détruites. Pour l'avocat et ancien ministre de la culture de l'État palestinien Anwar Abu Aish, en plus d'une grave atteinte au droit international, ces destructions dépassent la seule logique militaire et seraient probablement une vengeance religieuse.
La mentalité militaire israélienne, la mentalité politique israélienne sont basées sur le non-respect du droit international nulle part, ni en Palestine, ni ailleurs, mais aussi basées sur la vengeance de tout ce qui est culture. Le problème reste, c'est qu'ils ne sont jamais punis par le droit international, ni par la communauté internationale. C'est lamentable.
Le ministre iranien du patrimoine affirme que cette atteinte à son socle civilisationnel ne restera pas sans réponse. Téhéran annonce avoir engagé des démarches diplomatiques et juridiques au prix de l'UNESCO, des Nations Unies et de l'ICOMOS, Conseil international des monuments et des sites.
Du sport pour terminer, football coup d'envoi demain mardi de la 24e journée de Ligue 1 avec le déroulement de 4 matchs au programme alors que les 4 autres matchs sont prévus pour mercredi. Une journée très importante pour les clubs qui visent à terminer la saison sur le podium. La présentation est signée Hamza Rahmouni.
La première partie de la 24e journée de la Ligue 1 sera dominée par 2 rencontres. Tout d'abord, le leader, le Mouloudia d'Alger, qui accueillera au stade Ali Lapointe de Douira à partir de 22h l'USM Khenchla. Ce sera la première sortie officielle du nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger, Khaled Ben Yahya, qui effectue son retour après avoir réussi à remporter avec le club la saison dernière le titre de champion d'Algérie ainsi que la Supercoupe d'Algérie. L'autre rencontre qui attire les attentions, Olympique Erbou CS Constantine, l'Olympique Erbou, 4e au classement général avec 36 points et qui accueillera le CS Constantine, 2e au classement avec 38 points. Une occasion en or pour les Akboussiens de se hisser à la seconde place en cas de victoire. En attendant la rencontre JS Kabylie-JS Saoura prévue ce mercredi. On notera aussi les rencontres MC Oran, Mouloudia Dolbayad et ES Mostaganem Paradou AC. Une rencontre entre deux équipes ayant déjà mis un pied en Ligue 2. Pour ce qui est du reste de cette journée prévue mercredi, le CR Belouizdad et l'USM Alger, qui sont concernés par les matchs retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, accueilleront respectivement l'AS Ochlef et l'Entente de Sétif, tandis que la JS Kabylie affrontera la JS Saoura dans une rencontre où la victoire est impérative pour la JSK afin de gagner des points et de s'approcher du podium suite à sa dernière défaite à Khenchla face à l'USM Khenchla. Enfin, l'ES Ben Aknoun, qui a presque assuré son maintien en Ligue 1, accueillera la formation du MBL 8-7.
C'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention et sahaf torkom.